إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نزلنا مع كتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله، كتابه مفتاح دار السعادة ومنشوره ولاية أهل العلم والإرادة. طبعا ابن القيم هو من التلاميذ الجباء لشيخ الإسلام ابن تيمية، لم نقول يعني أنه هو تلميذه الأول، وقد ترك تراثا عظيما يعني فيما يخص ما كتبه من الكتب، والذي يعني يطالع حياة هؤلاء العلماء يعني يجد كثير من العبر، ويجد في ذلك تحقيق لوعد الله عز وجل لهذه الأمة بالنجاح والفلاح في هذه الحياة الدنيا، وكذلك في حياة يعني يظهر لنا يعني فضل العلم وفضل العلماء. هو له كتب كتبها في المراجع، يعني كتبها وهو في بيته أمام مكتبته، كانت يعني في الأصل مخطوطات، يعني نستع بكري الكتب ما هيش مطبوعة كما يريد، يعني مكتوب مخطوط باليد، كان يقرأ اللي يشوف المخطوطات. الذي طلع على عالم المخطوطات يعني يعلم الجهد اللي يقوم به العلماء يعني في طلب العلم، يعني كل مخطوط يعني عنده الكتابة تاعه وصعوبة القراءة، مش الأمر ليس الأمر بسهل كما يعني هو الحال بنا اليوم. نعم، ابن القيم رحمه الله سي رميل بن زلاب الشيخ الشيخ الإسلامي ابن تيمية، إلى لسي ونادي أن الريتاج سي امبورتون دون سكيل ا إكري، سكي مونتر جولي دي لا ريوسيت كالله عز وجل إلى دوني أ سيت ناسيون، et surtout aux gens de science de cette nation. Quand on lit leur vie, celui qui revient dans le livre de l'imam al-Dahabi, un des autres élèves aussi de Cheikh Hassan ibn Taymiyyah, donc il va taïr Kitab Sir A'lam al-Nubala, où il parle de la vie des grands, des savants, il trouve beaucoup d'aïbar, beaucoup de fawaïd dans le fait de savoir comment ils ont vécu, la réussite dans laquelle ils sont arrivés, et aussi ça montre ça correspond à ce que Allah Azzawajal a prévu pour ses adorateurs et pour surtout les gens de science. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il a écrit des livres lorsqu'il était, j'allais dire, chez lui entre parenthèses, et il est devant sa maktaba, et là il faudrait toujours se rendre compte de l'effort qu'ont fait les ulama, surtout d'avant, en fait, d'apprendre la science, parce qu'ils n'étudiaient pas la science comme on l'étudie, j'allais dire, certains nous aujourd'hui, avec des livres qui sont bien imprimés, et où la lecture elle est plus ou moins facile. Ils lisaient les livres sur des manuscrits. Ce qui est manuscrit, c'est-à-dire, c'est des livres qui étaient écrits à la main. Et donc, الخط يعني لا فاصون دون لوكيل ايتي ايكري سو مانوسكري ديبوندي دو سيلوي كي ليكريفي يانا كي ايكريفي بيان كلير يانا كي ايكريفي جولي دي دون فاصون او يفو ديفيني يعني لو شاك مو اي سيتي اسي ديفيسيل باسكو سيتان مومون اوسي يافي با شكل لو فات دو دوني شكل ا شاك مو ايتي با اوسي فاسيل هان دونك يا دي نو يا دي مو ان عرب كي سو qui ont un sens, je vais dire, qui est très proche. Ah, le mot khayr, tu peux lire hebr, tu peux dire khayr. C'est-à-dire que celui qui revient à l'Ilmachtotat, parce que des fois on n'a pas accès à ça, celui qui revient à l'Ilmachtotat, il comprend, j'allais dire, il se rend compte un peu de la difficulté qu'avaient les savants d'avant. Il est dans le fait d'approcher la science, de donner un effort important. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a beaucoup de facilité dans l'apprentissage, mais on ne fait pas autant d'efforts. Hein. Beaucoup de facilité que n'avaient pas les savants, j'allais dire, d'avant. Ibn Qayyim, on a dit, il a écrit ses livres quand il était chez lui, il a aussi écrit plein de livres, j'allais dire, quand il était en voyage. Et ça montre, j'allais dire, la force qu'il avait dans la science. Quand il va aller à Zad al-Ma'ad, tu vois les Al-Ma'ad, il y a des Khalil Ibad, et de ce livre, il est tiré de Tib al-Nabawi, la médecine prophétique, il l'a écrit en voyage et il n'avait aucun. Il est des fois dans le livre, il le souligne qu'il n'avait pas de ses références devant lui. C'est-à-dire qu'il l'a écrit de tête. Et quand tu vas lire le livre, il va dire ce hadith, il est Rawah ibn Abu Dawud, toi tu te dis, il est en train de se référencer devant des livres qui sont devant chez lui. Mais non, il te ramène des fois le hadith, il te ramène l'isnad, il te ramène ce que disent les ulama dessus. Et tout cela, pendant 300 ou 400 pages, et tu te demandes, yani, quelle mémoire ils avaient. Yani, Ibn Qayyim, quand il dit qu'il a écrit ça en voyage, c'est quelque chose yani, qui nous demande, nous, yani, qui fait qu'on reste un peu émerveillé devant une telle réussite. Et c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a promis lorsqu'il a dit « Inna nous zanna dhikra wa inna lahu la hafidun » Yani, jannat d'Allah Azza wa Jal, il y a de l'ilm, il a fait qu'il y ait des savants, et Allah Azza wa Jal baraka lahum fi awqatihim ou fi joudihim. Allah Azza wa Jal, il leur a donné la baraka dans leur temps, et dans les efforts qu'ils faisaient dans le din. Et tout ça, yani, revient au fait qu'ils étaient sincères dans leur apprentissage, ils étaient... ils donnaient les bons moyens, ils avaient ils faisaient beaucoup d'efforts pour rester sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, ça donne le baraka, yani le baraka de l'ilm, le fait que Allah Azza wa Jal il laisse derrière eux yani des traces qui restent où ils ont beaucoup d'âge malgré qu'ils sont dans leur tombe. Ibn Qayyim aujourd'hui il est dans sa tombe. Et ces hassanats, ils marchent toujours. Hein? C'est des gens qui ont yani, fait que leur vie et elle soit dédiée à Allah Azza wa Jal, elle soit dédiée à la science. Et jusqu'aujourd'hui, yani, ces livres restent des références. Alam al-Muqayyin ou Alam al-Muqayyin de Ibn Qayyim, c'est un livre de. J'ai la défense quand tu veux comprendre ce qu'est la science, l'évolution de la science du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'aux grandes écoles, jusqu'à ce qu'il y avait après, les fondements des écoles, etc. Tu reviens à la Muqayyin, tu vas trouver quelqu'un qui, un alim qui avait une clarté, yani, dans la vision. Il voyait yani, ses écoles à travers le temps. Hein, il voyait yani, les imams, ça montre yani, leur force yani, un petit peu dans la science. Et celui qui ne lit pas ça, qui n'a pas accès yani, à cette science, yani, il perd beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Il n'est pas en train d'avoir la bonne vision de cette religion. Et le fait qu'on ait une bonne compréhension de cette religion, une bonne pratique, ça a une influence sur la bonne vie que l'Azza wa Jalla a promis aux croyants. Donc, la dernière fois, on avait cité que Ibn Qayyim, il a mis dans son livre-là plus d'une cinquantaine de pages pour montrer la différence qu'il y a entre les savants concernant le paradis dans lequel Allah Azza wa Jalla a mis Adam avant qu'il le descende sur terre. Et il a dit que ce qui a acquis pour l'ashhar عند الخاصه والعامه الذي لا يخطر بقلوبهم سواه انها جنه الخلد التي اعدت للمتقين وقد نص غير واحد من السلف على ذلك. Donc il dit celui qui est connu, la chose qui est connue concernant les particuliers et l'ensemble des croyants, c'est que le Jannat al-Khuld, où était Adam avant qu'il descende sur terre, c'est le Jannat qu'Allah Azza wa Jalla a cité, c'est le paradis connu par tous. Et c'est ce qu'a cité plus d'un de nos pieux prédécesseurs. Et on voit, j'allais dire, dans ces termes, le fait que Ibn Qayyim se référence par rapport aux pieux prédécesseurs, et ça, c'est une caractéristique importante dans le manhaj, dans la droiture sur laquelle le chemin droit qu'on doit suivre, c'est-à-dire qu'on revient dans notre compréhension de la bonne religion, dans notre pratique, à nos pieux prédécesseurs. Ibn Qayyim, mais pour le cas de Sahir Wahid et Min Sarif al-Adalik, Yubin, Rakiz al-Muhimma, et Femme al-Ilm, en Adad-Din, et nous fermons, les qui nous fermons le Femme al-Sahih, la Bouddha l'Anam, et nous rejouons, il a fermé Sarifin al-Salih. Et ça, c'est un axe important. C'est une petite phrase, mais ça montre, j'allais dire, les références qu'on a. Qu'on revient dans la compréhension de notre religion, à la compréhension et à la pratique dans laquelle étaient nos pieux prédécesseurs, parce qu'ils étaient dans la forme la plus parfaite de la bonne compréhension et de la bonne pratique. On ne peut pas mieux comprendre la religion que, c'est-à-dire, on ne peut pas la comprendre mieux que comme l'a compris les compagnons du prophète. Et on ne peut pas la pratiquer mieux qu'eux. Hein, eux, ils étaient au summum de la bonne compréhension et de la bonne pratique. Et donc nous, quand on se réfère dans notre religion, il faut qu'on se réfère par rapport à eux. À chaque fois qu'on cite un verset, à chaque fois qu'on cite un hadith, on revient à leur bonne compréhension. Et ça, c'est un axe important qui montre, j'allais dire, le fait qu'on soit sur le droit chemin. Et dans cela, quand il y a une question dans laquelle ils ont parlé, s'ils sont sortis avec, dans cette question, à deux ou trois résultats, à deux ou trois réponses, on ne peut pas aujourd'hui sortir d'une quatrième réponse. Hein? Quand il y a une mes'ala donnée, et que nos plus prédécesseurs, ils ont donné certaines explications, ils ont donné deux ou trois réponses à cette question, on ne peut pas aujourd'hui venir avec une réponse qui diverge par rapport à eux. Ça montre qu'on sort du droit chemin. Ça, c'est un axe important. Nous, on a le travail qu'on a, c'est de prendre cet héritage qui nous vient à travers les siècles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, des ulama qui nous ont transmis cela, et on ne peut pas sortir. J'allais dire, on n'a pas le droit, j'allais dire, de sortir de leur bonne compréhension, parce que c'est eux qui ont le mieux compris cette religion, c'est eux qui l'ont pratiqué au mieux. Et comme dit l'imam Malik, la yasruhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha. C'est-à-dire, les générations qui viennent en dernier, à la fin, nous pourrons être sûrs, j'allais dire, nous revient vers Salah, vers le droit chemin, qu'à travers le chemin dans lequel étaient les premières générations. Ça montre qu'il y a un axe important parce que, j'allais dire, à travers l'histoire qu'ont connu les musulmans, il y a toujours une tendance d'essayer de dévier les musulmans de la droiture sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et cet effort, c'est un effort qui est très très important. Il a conduit à ce qu'il y ait beaucoup de sectes, il se référant à cette religion, et ça montre aussi l'acharnement que Shaitan et tous ceux qui sont ennemis de cette religion a essayé de dévier les musulmans du droit chemin, et ça, il ne faut pas qu'ils sous-estiment cet acharnement. Il ne faut pas qu'ils sous-estiment, qu'ils se disent aujourd'hui les choses sont simples dans l'héritage qu'on a. On hérite beaucoup des déviations de ceux qui ont dévié, j'allais dire, dans les premiers, à travers les siècles. C'est pour ça qu'il est important de comprendre l'importance de cette science, de bien la définir et de comprendre les axes importants sur lequel qu'on devrait suivre pour éviter d'être parmi ceux qui se sont égarés du droit chemin. Et c'est quelque chose qu'on refait à chaque fois, à chaque prière. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri maghdubi alayhim wala dhalin. Alors on demande à Allah Azza wa Jalla qu'il nous rabbi shaytabatna ala sirata al-mustaqim. On réitère cette invocation à chaque prière. Pourquoi? C'est Allah Azza wa Jalla S'il nous fait répéter ça tous les jours, plus de 17 fois, c'est pas pour rien. Hein, plus de... Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui dévient. En fait, de dévier du chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis, parmi eux, j'avais des bons prières, sur lesquels on est en train d'étudier un de ces livres importants, qui montre, j'allais dire là-dessus, il montre un peu l'importance de la science, et il cite un petit peu les règles qu'on a à suivre pour être sur le droit chemin. Et donc sur cette question-là, on voit qu'il donne de l'importance sur ça, et il dit que c'est le salah là-dessus, il y a un avis très important là-dessus qui dit que le paradis dans lequel était Adam est le paradis que connaîtront le jour du jugement dernier, que connaîtront les croyants le jour du jugement dernier, que la Azzawajal fasse qu'on soit parmi eux. Il y a aussi parmi les divergences qu'il y a eu, le fait que certains ont dit que le paradis et l'enfer n'existent pas, qu'ils existeront le jour du jugement dernier, ça c'est quelque chose de faux. Hein, le paradis et l'enfer, ils existent actuellement. Ils ont existé du temps du prophète depuis que l'Azawajal a créé Eden. L'enfer et le paradis ont toujours existé. J'essaie un peu de citer les points les plus importants. Et j'allais dire, ceux qui librent le pays, j'allais dire, il va ramener une divergence sur une question, et il maîtrise tellement cette divergence que lorsqu'il te ramène la vie inverse, à la fin, tu es presque convaincu de la vie inverse. Et quand il va te citer la vie inverse, tu es presque convaincu. À la fin, tu te dis, effectivement, le raisonnement est fort. Et après, il détruit cet avis inverse, hein, qui est contre, parce qu'à la fin, tu es convaincu de la vérité. Ça montre rien la puissance dans laquelle il y en a dans le raisonnement. Et ça fait une scène qu'on devrait, j'allais dire, réfléchir dans le sens de, s'il a le temps, s'il voit qu'il a du temps libre, qu'il le mette au service du fait d'acquérir cette science. Parce que plus il acquiert cette science, plus il a une bonne vision dans la religion, et plus il s'éloigne de l'égarement, et plus il s'éloigne aussi des tentations de nefs et des choubouettes de shaitan. Et plus il est apte à, j'allais dire, à bien comprendre les versets, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit que يقول أما قولكم إن جميع من نفاه الله سبحانه عن الجنة من اللغو والعذاب وسائر الآفات التي وجد بعضها من إبليس عدو الله فهذا إنما يكون بعد القيامة إذا دخلها المؤمنون كما يدل عليه السياق. Donc il y en a qui se sont opposés au fait que ce paradis dans lequel était Adam alayhi salam n'est pas le paradis qu'on connaîtra le jour du jugement dernier. Et ils ont dit, bon, que Adam, l'Azajou lui a interdit le fait de manger d'un certain arbre, les fruits d'un arbre donné dans le paradis, que le fait qu'on ait des interdictions, ce n'est pas une des caractéristiques du paradis. Dans le paradis, il n'y a pas d'interdiction. Que Iblis, il a pu faire l'ouest-ouest à Adam alors qu'il était au paradis, alors que Iblis, l'Azajou, il l'a banni du paradis. Ils ont cité, pas mal de, j'allais dire, ceux qui sont contre. Ils ont cité certains choubouhat, et là-dessus, Ibn Qayyim, il dit que il est clair que les caractéristiques que l'Azawajal a citées du paradis, c'est des caractéristiques qui sont, j'allais dire, qui se réfèrent au paradis, donc connaîtront Inch'Allah le jour du jugement dernier, que connaîtront les croyants le jour du jugement dernier, et que le fait que l'Azawajal a créé au début Adam, il a donné il y avait des caractéristiques qui n'existeront pas le jour du jugement dernier. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles Adam est rentré au paradis en premier lieu ne sont pas les mêmes que ceux que connaîtront les croyants le jour du jugement dernier. C'est ça la différence, c'est ça qui a fait la divergence, c'est le fait que certains se sont opposés au fait que le paradis dans lequel était Adam n'était pas celui que connaîtront les croyants le jour du jugement dernier, et que c'était un paradis, c'était juste une jannah fawq al-ard, que ça faisait partie de la terre, ou que c'était une jannah qui était entre les cieux et la terre. Et cela ne correspond pas à ce qu'il y a dans le texte, c'est-à-dire à ce qui se référence par rapport au Coran, hein, parce que le Azza wa Jal a cité le Jannah avec l'Alif ou l'Am. وَيَذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. Donc il a cité Alif Lam, يعني للعهد, c'est-à-dire quand le Azza wa Jalla a parlé, il dit Al-Jannah, ça veut dire celui qui l'entend, il connaît déjà ce que c'est. Alif Lam, l'ahad, c'est-à-dire la cité rentrée au paradis, le paradis qui est connu par tous ceux qui entendent, يعني ce verset. Qui ont l'habitude d'entendre ce mot-là, et donc c'est le paradis, le paradis qui est connu. Il a su aussi, il cite le hadith où tous les gens du jugement dernier, ils iront vers les prophètes pour leur demander d'intercéder sur le fait que l'Azzawajal écourte leur attente, parce que le soleil il sera prêt, il se rapproche des terres à moins d'un mille. De telle sorte que chacun sera yani, dans le. كل واحد يكون على حسب العمل تبعه على حسب الشيء اللي عرق فيه. كاين العرق هذا كيوصل له للكعبين, كاين يلحق الى وسط جسمه, كاين اللي هو غارق في ذلك العرق. Donc, le jugement dernier, dans cette attente, j'allais dire, les gens ils seront plongés dans la sueur que leur corps yani, dégage selon les bonnes ou mauvaises actions qu'ils ont fait durant leur vie. Il y en a qui sera dans le bain de sa sueur à hauteur de ses pieds, il y en a qui sera jusqu'à la moitié de son corps, il y en a qui sera aux trois quarts de son corps, et il y en a qui plonge dedans selon s'ils étaient sur le bien ou pas, sur le droit chemin ou pas, selon les actions qu'ils ont fait. Et j'ai aidé les gens, le jour du jugement dernier, vont demander au prophète d'intercéder, auprès de l'Azza wa Jalla, demander à l'Azza qu'il écoute. Azza wa Jalla, qu'il écoute cette attente qui est pénible. Et ils vont demander à Adam d'intervenir. Et il leur a dit, il leur dira que je ne peux pas intervenir alors que moi j'ai fait un péché qui m'a fait sortir du paradis. Et il parle du paradis connu. Tout ça, c'est des preuves que cite Ibn Qayyim sur le fait que le paradis dans lequel était Adam était celui, le paradis que connaîtront, inch'Allah, les croyants le jour du jugement dernier. Et il met là-dessus, j'allais dire, plus de 80 pages. Il faut avoir de la patience, Yannick, dans la lecture. J'essaie un petit peu de résumer. Ce qu'il a dit sur ce sujet-là. Et il poursuit, j'allais tout ça rendre dans le fait que l'importance de la science, elle est liée à aux épreuves qu'on connaît dans le Hayat Dunya. Et donc, il a cité, comme on l'a cité la dernière fois, le hikmah qu'Allah Azza wa Jal, le but pour lequel Allah Azza wa Jal a créé la vie, par lequel passe l'homme avant d'aller au paradis. Il a cité, j'allais dire, l'intérêt qu'il y a à ce que l'homme il passe par des épreuves, et que ces épreuves de dunya, c'est eux qui font que ceux qui font le bien, ils iront au paradis, ceux qui font le mal, ils iront en enfer. L'examen terrestre, il montre que l'Azza wa Jalla a choisi qu'on passe par cet examen terrestre pour des hikam, il y a des raisons. Et pour ces raisons-là, il cite une vingtaine ou une trentaine de raisons qu'on a, j'allais dire, citées en résumé, citées la dernière fois. Inch'Allah. Et là, il cite, il dit, « Lama ahbatahu subhanahu min al-jannah »« Lama ahbata Adam min al-jannah »« Wa aradahu wa zurriyatahu li anwa'i al-mihani wal-bala'a » أعطاهم أفضل مما منعهم، وهو عهده الذي عهد إليه وإلى بنيه، وأخبر أنه من تمسك به منهم سار إلى رضوانه ودار كرامته. قال تعالى عقب إخراجه منها: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى قال: اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. دونك يجي بالليل كل عز وجل بعدما أهبط آدم السلام عليكم أهبطه إلى الأرض أعطاه يعني عهد، وهذا العهد الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان هو فيه يعني صلاح الإنسان، وفيه يعني حياته وسعادته. يعني في هذا العهد ربي عز وجل قال: فإما يأتينكم مني هدى، إما هذه هي إن الشرطية مؤكدة بما الدالة على استغراق الزمان والمعنى، في أي وقت وأي حين أتاكم مني هدى. فربي عز وجل يعني قال باللي بعد ما أنزل آدم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بين لآدم بأنه يعني قد يرجع إلى الجنة متى كان على مستوى العهد الذي جعله الله له. في هذا العهد ربي عز وجل قال يعني لآدم بعدما تاب من الخطيئة التي وقع فيها في الجنة عبينه بلي يعني اللي يتبع هذا الطريق فإما يأتينكم من يهودا بلي راح يعني راح ينزل هذا الوحي، واللي يتبع هذا الوحي يعني سوف لا يعرف يعني الشقاء في الدنيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ويكون يرجع إلى الجنة في أحسن الأحوال. يرجع إلى هذه الجنة في أحسن الأحوال. يعني الله عز وجل من ce pacte qu'il a donné l'Adam العهد، je pense que le sens de l'عهد en français c'est pacte traduction des fois. Il a dit celui qui lorsqu'il a fait descendre l'Adam il lui a donné un bac dans lequel il lui dit que celui il y aura yani une révélation qui descendra à chaque fois les révélations qui vont descendre de façon successive hein, et celui qui va suivre yani cette hidaya il ne connaîtra pas sur terre le khouf, la peur, il ne connaîtra ni la peur ni la tristesse. La peur c'est un sentiment qu'on a contre quelque chose qui va venir. Quelque chose qui vient dans le futur. Khouf, yani fi l'ati mustaqbal. La tristesse, ça vient sur quelque chose qu'on a connu, un malheur qu'on a connu dans le passé. Ça n'est triste parce qu'il l'a fait, parce qu'il a raté, parce qu'il. Voilà. Le khouf, le hazan, c'est. Le khouf, c'est des choses qui vont arriver. Et le hazan, c'est par rapport aux choses qui ont été, j'allais dire, faites. Et donc, Allah Azza wa Jal montre que celui qui suit le droit chemin, il ne connaîtra pas, d'une façon continue, j'allais dire, ces deux, le khawf ou le hazan, ne connaîtra pas ni la peur, ni la tristesse. C'est la caractéristique de celui qui est sur le droit chemin, et ça se concrétise par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, « Ajab li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, وما ذلك للمؤمن إن أصابته سراء شك فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كما نسيت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدي que c'est l'état d'âme du croyant du musulman il est toujours stable et ça n'existe que pour le croyant. Quand il lui arrive quelque chose de bien il est content, il remercie Allah Azza wa Jalla, et quand il lui arrive un malheur il patiente et c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que le musulman ne vit pas yani entre ces sentiments qui font j'allais dire qu'ils font la mauvaise vie entre parenthèses. La bonne vie, c'est la vie du musulman. La mauvaise vie, c'est la vie du non-musulman. J'allais dire si on peut al-hayat al-tayyiba ou al-hayat al-dank il y a hayat al-talq bil-kuffar ou l'adina yibta'idun al-talq idem al-hayat al-dank. Fawa l'insan qui n'a pas cette révélation qui ne connaît pas al-shara Il est entre la peur et la tristesse, toujours. Hein, même s'il a l'argent, il a peur de le perdre. S'il a un bonheur devant lui, c'est-à-dire s'il y a quelque chose qui est source de jouissance pour lui, à un moment donné, il a peur de le perdre. Et il est toujours, j'allais dire, dans le... dans une instabilité concernant le fait d'être heureux, d'être stable dans le bonheur. Et on a dit que la sur l'azawajul qaf imayatina kum min huda, ça veut dire que l'hidayah, le chemin du salut, il nous vient d'Allah azawajul. Fa imayatina kum min huda, c'est que cette hidayah ne vient pas des efforts des hommes, elle vient de la révélation que Allah azawajul il envoie à travers ses prophètes. Et donc nous, yani, on essaie de chercher notre chemin, le droit chemin, le choix de notre bonheur sur terre, on n'a qu'à revenir à la révélation d'Allah Azza wa Jal. C'est là où on trouve ce qu'on a à faire, le chemin qu'on devrait suivre pour être heureux sur terre et dans l'au-delà. وقال في الآية الأخرى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى فنفع عن متبع هداه أمرين الضلال والشقاء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. donc là-dessus Ibn Qayyim il a dit dans ce verset, celui qui suit la révélation que l'Azza wa Jalla a envoyée à son prophète, il ne sera ni perdu, il ne connaîtra pas, elle est traduite par le fait d'être malheureux, le fait de connaître la mauvaise vie, selon les traductions. Donc il a dit, l'Azza wa Jalla, il a garantie dans ce pacte à celui qui suit que celui qui suit son droit chemin ne connaîtra pas d'Allah le fait d'être perdu et le fait d'être malheureux. Qala Abdullah ibn Abbas, takaffala Allah, Allah Azza wa Jalla c'est-à-dire a garanti à celui qui lit le Coran, liman qara al-Quran, et qui pratique ce qu'il y a dedans comme ordre, wa amila bima fih, qu'il ne sera pas perdu dans cette vie d'ici-bas, dunya. Et qu'il ne connaîtra pas, qu'il ne sera pas malheureux le jour du jugement dernier. Et il a cité ce verset. Et ça, c'est une explication du verset qui nous vient d'Ibn Abbas, qui va tarjouman au Coran. C'est-à-dire, ça montre la méthodologie dans laquelle qu'on a à suivre dans l'explication du Coran. Hein, de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de revenir à l'héritage qu'ont pris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire revenir aux grands compagnons, aux savants des compagnons. Ibn Abbas était parmi les savants des compagnons. Hein. Le sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du'a, « Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. » Il a fait du'a. Donne-lui la bonne compréhension dans la religion et apprends-lui ta'wil tafsir. Le mot ta'wil, il a ce sens de tafsir. Il a aussi un autre sens qui est le fait de donner une explication contraire à ce qui est apparent dans l'ayah. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter quand on dit al-ta'wil. Des fois, c'est le sens de dire ceux qui font tafsir. Comme il le faut. Et des fois, il est utilisé dans le sens que Fulan Awul Ayah, c'est-à-dire qu'il est sorti de son contexte et il a donné une explication hors du contexte apparent. Et ce mot, il peut être utilisé dans les deux sens. Et c'est le contexte qui permet de définir le bon sens. Donc, Hada Sahabi, qui est une référence au tafsir, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, c'est un Sahabi, fils de Sahabi, pour ça qu'on dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu Anouma, hein, parce que Abdullah c'est un sahabi, son père, Abbas c'est un sahabi. On dira d'Allahu Anouma, il a expliqué ce verset, il a dit que Allah Azza wa Jal, yani, Allah Azza wa Jal, takaffala, liman qara al-Quran wa amina bihi, an la yadilla fi dunya wa la yashqa fi l'akhirah. Allah Azza wa Jal a garanti à celui qui suit cette révélation qu'il sera heureux sur terre et dans l'au-delà. Yani, c'est d'une façon générale, C'est l'explication qu'a donnée Ibn Abbas. Et le fait de revenir dans Tafsir à ce qu'a dit Ibn Abbas, ça montre aussi la méthodologie dans laquelle on a à suivre dans l'explication du Coran. Hein, ceux qui expliquent le Coran, il y en a qui l'expliquent dans son aspect linguistique, il y en a qui l'expliquent dans son aspect, j'allais dire, historique. Et l'explication qu'il faut, toutes ces explications, il faut qu'elles se basent pour rester sur le droit chemin, sur la bonne compréhension des compagnons. Sur le Coran, il y a des versets qui sont clairs, qui comportent qu'un seul sens, il y a des versets qui peuvent donner plusieurs sens, hein, le muhkem ou le mutajaba. Des versets qui sont clairs dans le sens, on ne peut pas se tromper. Hein, j'allais dire, il y a un seul sens à ce verset-là, dans le muhkem. Et il y a des versets qui peuvent comporter plusieurs sens. Et j'allais dire, pour comprendre le Coran, on remet les versets, j'allais dire, qui ont plusieurs sens, on se référence par rapport aux versets qui ont, où c'est clair que le sens il est donné. C'est pour ça que j'ai dit, voilà, dit Anzala, alayk al-kitab minu ayatul muhkamat kunna umur kitab wa ukharu mutashabihat. Faman alina fi qulubihim zayhun fi ittabi'una ma tashabaha minhu ibtira' al-fitna wa ibtira' at-ta'wilih. Alors que l'Allah Azzawajal nous a dit que dans le Coran, il y a des versets qui sont dans un sens qui est clair et unique, et d'autres qui peuvent avoir, j'allais dire, plus de sens. Et ceux qui divisent du droit chemin, ils prennent toujours les versets dans un sens qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, il a dit, « Il y a des ayats, mais il y a des ayats qui sont en train شحال الناس يعني يجي يقول لك يذكر لك ايات تو دي بوركو تو بري با بوركو تو في لي بيشي يقول لك ان الله غفور رحيم ها تو دي بوركو تو في لي بيشي يقول لك الله عز وجل كريم ما يجري كودي يعني يا باكسا دون كورون الله عز وجل يدي اوسي كي سي سوبي كي لو شاتيمون لو بلو دور بوركو تو برون سو فيرسي تو برون با لوتر اي سو فيرسي الله عز وجل لا با ديسوندي بور توتوريزي ا في لي بيشي كي تو فيل سي با لو سونس دونك لوي لي ان تران دوني ان ديمونستراسيون ا بارتي دان فيرسي دون ان سونس كي فو با Tu peux comprendre ce sens, mais comprendre le fait que tu peux faire autant de péchés que tu veux, parce que l'Azza wa Jalla est clément et miséricordieux, ce n'est pas le sens de ce verset-là. C'est un des sens, mais ce sens-là n'est pas le bon sens. Et parce qu'il y a d'autres versets qui montrent que l'Azza wa Jalla aussi, il se dit, c'est celui qui châtie le plus. Donc, ça montre que Allah Azza wa Jalla, il est miséricordieux avec les croyants et il châtie ceux qui font les péchés. J'ai donné un petit exemple, j'allais dire, je ne veux pas rentrer dans les exemples de tous ceux qui ont dévié du droit chemin et qui prennent, j'allais dire, beaucoup de versets dans un sens qu'il ne faut pas. Allah Azza wa Jalla a dit Rahmanu ala arshi istawa. Hein? La société s'est établie sur son trône. Il y a des écoles, il y en a parmi les musulmans qui sont partis dans le sens de dire, Istawa, c'est pas, il s'est établi, hein. C'est pas le sens de, il s'est établi sur son trône, mais c'est le sens Istawa, c'est-à-dire qu'il s'est accaparé du trône, ou dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que le fait de revenir dans le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de revenir à la compréhension des pieux prédécesseurs, ça c'est qui montre, je vais dire, une des caractéristiques du droit chemin. Hein, ce droit chemin, il est caractérisé par le fait qu'on revient aux sources, à l'école initiale, pas à l'école qui est venue après. Certains se posent la question, pourquoi telle précision? Parce que, c'est-à-dire, les écoles qui existent jusqu'aujourd'hui, qui disent, yani, madrasatul khalafi, madrasatul salafi aslam, madrasatul khalafi a'lamu ahkam. L'école initiale d'un salaf, de nos plus prédécesseurs, c'était une école qui était saine, la plus saine, et l'école qui est venue d'après, c'est une école qui est plus savante et plus sage. Et quand tu leur dis, qu'est-ce que vous voulez dire par ce sens-là? Ils te disent, oui, parce qu'au début, les musulmans, ils n'ont pas fait face à autant de choubouhet que ce qu'a connu l'islam après le deuxième et troisième siècle, parce qu'il a dû faire face aux choubouhet des Grecs et des Romains, lorsqu'il y a eu des traductions de cette civilisation qui était avant. Et donc, l'école qui est venue après l'école de Salaf Saleh, qui caractérise le premier, le deuxième et le troisième siècle, Ah, l'école qui est venue après, ils disent voilà, elle était plus elle est rentrée dans des détails, dans plus de détails que celle qui existait avant, etc. Et ça, c'est faux. Parce que cette école elle-même, elle est, dans ce verset-là, elle ramène quelque chose qui est contraire à l'héritage qu'on a eu de notre Salaf. Salaf Salah n'a pas expliqué Ar-Rahman al-Arsh Sawa. Tu trouveras chez aucun des compagnons un compagnon qui dit que le sens c'est Stawla. Et déjà ce sens-là, c'est un sens qui n'est pas à la hauteur des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ça qu'apparaît quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu initialement bagarre. C'est-à-dire qu'il y a eu comme quoi le trône ne voulait pas qu'Allah Azza wa Jal le prenne, et voilà, après il établit, c'est-à-dire qu'il a pris. Ça, c'est pas un sens qui est juste, ni dans la langue arabe, ni dans le tafsir. J'ai dit cette école-là, qui aujourd'hui qui est bien connue, et qui a beaucoup de prêcheurs là-dessus, hein, elle cite cela, et quand tu leur poses la question, pourquoi vous dites ça? Comment pouvez-vous dire que ceux qui sont venus après le prophète, après les compagnons, après les grands imams, ils ont plus de connaissances, ils ont plus de science et de sagesse que ceux qui étaient, que les compagnons, que ceux qui sont venus après? Vous vous rendez compte, il y en a de cette phrase. Et ils sont tout contents, tu vas lire des livres, il y en a de certaines références, c'est un docteur connu aujourd'hui, j'avais déjà lu un certain moment, il y en a de cette phrase, des gens qui sont célèbres aujourd'hui. Et donc, et le problème, c'est qu'ils héritent de l'école dans laquelle ils ont été formés. C'est un héritage qui vient à travers des siècles. Et celui qui ne connaît pas, j'allais dire la source, l'importance de la science, celui qui ne connaît pas l'état dans lequel étaient les Salafouna Saleh, Anil Asad Féon, il prend un chouba, cette chouba facilement. On ne peut pas être plus savant que Salaf Saleh. On ne veut pas être plus sage qu'eux. C'est pour ça qu'on dit, la règle dans le ménage d'une façon générale, le chemin qu'on a à suivre, et c'est le résultat de bien comprendre cette science, cette révélation qui nous vient d'Allah Azza wa Jal, c'est de dire que Madrasatu Salafi, Aslam wa Ahkam wa A'lam. Elle a toutes les caractéristiques, c'est la plus saine, c'est la plus savante, et c'est la plus sage. Tu ne peux pas avoir mieux. Certains qui sont venus après, ils ont un petit peu dénigré l'héritage qu'il y avait dans la révélation et dans les livres des grands savants du temps des compagnons et de ceux qui sont venus après. Ils se sont dit, nous on fait face à la philosophie de Platon ou d'autres, etc. Et qu'il y a de la philosophie pour l'attaquer. On ne peut pas dire qu'Allah Rasoulou. Il faut qu'on rentre dans les raisonnements logiques, un peu, voilà. Des raisonnements, j'allais dire, qui veulent donner un aspect absolu. Et ils s'éloignent des textes. C'est ce qui a engendré ce qu'on appelle ilm al-kalam. Ilm al-kalam, c'est la philosophie qui est rentrée, j'allais dire, pour faire face à l'héritage philosophique qui était avant l'islam. Mais ils sont rentrés tellement dedans qu'ils se sont perdus. Parce que ils ont dénigré la puissance qu'il y a dans les textes. Ils ont dénigré, j'allais dire, la puissance qu'il y avait dans les versets, dans les hadiths, dans l'héritage des compagnons, radiallahu anhum, et les paroles des ulama qui étaient peut-être des paroles qui étaient courtes, mais qui comprenaient beaucoup de science. Les ulama qui ont écrit aujourd'hui Bukhari, les gens qui ont écrit aujourd'hui, les gens qui ont écrit aujourd'hui, qui ont écrit aujourd'hui, il y avait une grande science. Donc on a dit que le fait de se référencer dans le tafsir, ce qu'on a cité, il y en a qui essaient de rentrer dans le tafsir linguistique, et te dire le sens arabe de ce verset, de ce mot, c'est celui-là, donc il va dans ce sens-là. Et j'allais dire là-dessus, il y a beaucoup qui divisent du droit chemin dans l'explication du Coran, parce qu'ils rentrent dans des sens qui ne se concordent pas avec d'autres versets, ils rentrent dans le mutashabih, les versets où on peut tirer plusieurs sens. Ils ne le font pas concorder avec les autres versets. Et ils arrivent à des, j'allais dire, à une explication qui est erronée. Et le fait de bien comprendre le Coran, c'est de bien maîtriser les sunnahs. La bonne compréhension du Coran, elle n'est, j'allais dire, pour comprendre le Coran, il faudrait le facteur ta sunna. Si on n'a pas sunna, on ne peut pas bien comprendre le Coran. Et donc on perd le bon sens du Coran si on perd sunna. Celui qui ne maîtrise pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne maîtrisera jamais la bonne compréhension du Coran. Les daya, la sunna, parce qu'il va essayer d'expliquer le Coran selon des, ce qu'il entend. Hein, ce qu'il. Là où il veut aller. Hein, Sahib Shuba, qui a sa Shuba au départ, et il fait le raisonnement après. Hein, il a une Shuba, il veut arriver à un résultat. Il se met avec le résultat, le but, et après, il va chercher dans les versets, dans les hadiths, tout ce qui. Tout ce qui peut l'arranger. Et ça, c'est pas le chemin de celui qui suit le droit chemin. Là, celui qui suit la vérité, le droit chemin. Celui qui suit la vérité, il suit les versets, les hadiths, et là où ça le mène, il suit. Alors, il connaît, il dit l'axe. Il habille au sein de la tija. Ah, j'allais dire, il y avait des questions que les gens, ils se posent tout le temps, surtout dans ces pays-là. Il veut faire les vendanges, il va poser la question. Il fait un programme comme ça, un organigramme. Je pose la question, je pose la question. À chaque fois qu'on me dit non, je repose la question à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'on me dise oui, hop, je sors du programme. C'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à quoi? Lui, il n'est pas en train de chercher. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette. Je ne sais pas, Sahib Shuba qui est jik, l'azm yhubi yusul natija ta'o. Si tu lui donnes, il a mis le pêche à l'alim, il s'est l'eau, l'alim a de l'amma il s'est l'eau, il m'y charge l'eau, je vais vous dire, il s'est l'alim ou d'accord, hâta, il y a pas fait, il m'a oisé l'ulama, si tu veux, tu suis les erreurs des ulama, comme on dit Salaf Salah, man il taba à rukhsata kulli alim, fa wazin dib. Il sort de la religion, si tu suis les erreurs, si tu cumules, les erreurs dans lesquelles sont tombés les écoles, les grands savants, etc., quel qu'il soit, parce que l'insan, l'alim, quel qu'il soit, c'est un être humain. Et donc, il va avoir raison. C'est-à-dire, sur pas mal de questions, il va se tromper sur d'autres. Si tu prends les erreurs dans lesquelles sont tombés les ulama, tu vas sortir de là, zendé, puis je me dis, il n'y a plus de halal, plus de haram. Je veux pas aller plus loin. J'allais dire, l'insan, le chemin qu'on a à suivre, c'est suivre les textes. Ce que dit là, ce que dit Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, je suis. Il faut pas que je suis, l'hawa ta'an nafstaï. Elle veut arriver à un certain but. Il ne faut pas que je sois dans la méthodologie dans laquelle je prends ma religion. J'allais dans le sens, j'essaie de trouver ce qui concorde avec ce que aime mon nefs. Il faut aller suivre ce que dit Shara. Et même si nefs elle n'aime pas ça, je dois là, la faire plier ou dire, c'est un Shara. C'est, j'allais dire, la règle pour le bonheur. Et là-dessus, on voit le manque de sincérité dans la recherche de la vérité, le fait de suivre cette religion. Hein, et le fait de plier devant les shahawat ad-dunya, l'attrait de cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont vers des questions, ils essaient, j'allais dire, de forcer dans des choses où c'est perdu d'avance. Si toi, tu es faible, tu n'arrives pas, j'allais dire, à faire certaines choses, certaines sunnan, tu sors par la sortie de secours, normal, tu dis je suis faible. Et c'est bon. Et tu essaies, Inch'Allah, de faire des efforts pour devenir plus fort, pour essayer de faire face. Il ne faut pas essayer d'argumenter ce que tu fais comme bêtise. Parce que là, tu rentres dans quelque chose de plus grave que le fait de faire cette chose qui est interdite. Le fait d'essayer de l'argumenter, tu prends une choubouette à Shaitan, cette choubouette, c'est-à-dire, tu t'induis en erreur et tu induis avec toi d'autres. Il ne faut pas faire face à la vérité. Mais certains, quand tu lui dis ça, c'est une sunna, il commence à philosopher. Pourquoi? Parce que lui, il ne la fait pas. Et si tu ne la fais pas, tu es faible. Bon, tu dis, je suis faible. Pourquoi tu veux argumenter quelque chose qui n'est pas argumentable? Alors que tu n'as pas de bagage. Des fois, il n'a pas de bagage, il commence à philosopher. Et tout seul, tu lui dis, voilà, Rasoul Sallam, il a dit, oui, mais bon, Rasoul, s'il a dit ça, comment se fait-il que... Pourquoi tu discutes? Alors que tu n'as pas de bagage. Pourquoi tu veux arriver, j'allais dire, à quelque chose de faux, alors que tu n'as pas de... C'est-à-dire, tu es en train de suivre en voie le fait que l'insan essaie d'arriver, il essaie de suivre, d'arriver au but, Rabbi Yahfadna wa Iyakum. Et j'allais dire ça, c'est pas juste la caractéristique. C'est un peu la stratégie que fait notre nefs pour arriver à ses désirs des fois. Et l'insane, il faut qu'il fasse attention à lui-même. J'allais dire, il faut qu'il se mette comme but le fait de suivre la vérité. Là où le texte il le montre, là où c'est le et il faut qu'il soit sincère dans cette quête de vérité. Et de la sincérité, c'est quelque chose de difficile à voir. Ikhlas, je sais. C'est mon ulama, un ulama, c'est ça. Je n'ai pas trouvé quelque chose de plus difficile que le fait d'avoir la sincérité. C'est difficile. Rabbi Ufukna wa Yakub. Donc on a dit que c'est le Coran, il faut qu'il revienne à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la sunna du prophète on la comprend aussi à travers la bonne compréhension et la bonne pratique des compagnons du prophète. Ça c'est une condition qui suit. Autant la sunna elle explique le Coran, autant l'héritage des compagnons il explique la sunna. Si on ne maîtrise pas un des facteurs, on peut se perdre. Si on ne maîtrise pas le fait de bien comprendre le Coran à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de comprendre cette sunna à travers la compréhension et la pratique des compagnons, on divise du droit chemin. C'est simple. Celui qui ne revient pas à ce qu'on dit, ni les compagnons, comme là Ibn Qayyim, dans sa démonstration, il a ramené ce qu'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Tu vas lire certains livres, et il va philosopher sur des questions, etc. Alors que la réponse, elle est dans la sunna. Je vais revenir à cet tafsir, où ce qu'il arrive à Qawla Azzawajal, il a dit, ahsanu al-husna, wa ziyada. Al-husna, c'est le jannah. Qu'est-ce qu'il y a de plus que le jannah? Wa ziyada. Et comment c'est philosophé, tatlah, etc. Alors qu'il y a le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien que al-ziyada, il y a ru'yatullah, il y a Azzawajal. Et tu vas lire cette facile, il philosophe là-dessus, il amène plein de paroles, plein de phrases, alors que, je vais dire, la réponse, elle est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, j'allais dire là-dessus, la prétention de cette école, cette grande école qui est peut-être aujourd'hui majoritaire en nombre dans le monde musulman, cette prétention de dire que madrasatul khalafi, madrasatul salafi aslam, ou madrasatul khalafi a'lam ou ahkam, de la prétention, ça montre un des axes importants de sa déviation du droit chemin. Et là-dessus, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on a dit le fait que certains savants maîtrisent les outils de la science ne veut pas dire qu'ils sont, je veux dire, sur le droit chemin. Hein, tu vois des gens qui parlent, qui maîtrisent la langue arabe, qui maîtrisent certains aspects de l'usul, l'usul fiqh, qui maîtrisent le balagha, qui maîtrisent les dissertations, qui sont ce qu'on appelle ulum al-ilm, hein, des sciences, outils à la compréhension qui permettent de bien comprendre le Coran et la Sunna, ne veut pas dire qu'ils maîtrisent le Coran et la Sunna comme étaient les plus prédécesseurs. Ces outils de la science, ils peuvent être utilisés pour, j'allais dire, essayer de donner du poids aux écoles qui sont venues après l'école de nos pieux prédécesseurs. Et là-dessus, j'allais dire, l'insane, à travers l'expérience qu'il a dans sa vie, on peut trouver plein d'exemples. Et pour le Ibn Qayyim, والايه نفت مسمى الضلال والشقاء عن متبع الهدى مطلقا فاقتضت الايه انه لا يضل في الدنيا ولا يشقى فيها ولا يضل في الاخره ولا يشقى فيها فان المراتب اربعه هدى وشقاوة في الدنيا وهدى وشقاوة في الاخره donc là-dessus Ibn Qayyim dit que on a celui qui suit le droit chemin il a l'hidayah dans le dunya. Le fait qu'il y ait l'hidayah qui est contre le dalal et le fait qu'il soit, yani, kul sa'id ibn ta'il, il y a de shaqa. Donc, celui qui suit le droit chemin, il connaîtra l'hidayah, qui est l'inverse de dalal, et connaître le bonheur, sa'ada, qui est l'inverse de le shaqa. Et Allah Azza wa Jalla dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Donc Allah Azza wa Jalla, il montre que la vie de Al-Kafir, celui qui s'éloigne du droit chemin, c'est une vie malheureuse. Même si, dans l'apparence, il a tous les divertissements de ce bas monde. Même s'il a l'argent, même s'il a accès à tous les types de divertissements qu'il y a dans ce bas monde, il a une vie qui est malheureuse parce qu'il est loin du droit chemin. Et c'est pas pour eux. Il n'est pas en train de suivre le chemin que l'Azza wa Jalla lui a tracé. Et celui qui suit ce chemin, le bonheur, on ne peut le trouver que sur le chemin que l'Azza wa Jalla nous a tracé. On ne peut pas trouver le bonheur ailleurs. Et on a dit que le bonheur, c'est une question qui est relative au cœur. C'est le bonheur qui a, c'est le cœur qui apprécie le bonheur. Celui qui est, l'insan, il vit avec son cœur, et ce qu'on appelle Hayat al-Ruh, la position du cœur par rapport à l'âme de l'insan, c'est lui qui dirige. Et le fait d'apprécier le bonheur ou de connaître ce bonheur sur terre, c'est une sensation qu'on a dans notre cœur. Et celui qui est au Coran, quand il fait ses adorations, etc., ils sont ceux-là. Des fois, on lit, on entend une certaine lecture du Coran qui fait le khushu' dans le cœur, on a certains. On sent. Le halawa, l'iman, le fait d'écouter le Coran, on sent que ça vient de l'Azza wa Jal. Il a un effet sur notre cœur. J'allais dire, celui qui suit le Coran, j'allais dire, dans le sens d'écouter ce qui est dit. Et de suivre, j'allais dire, ses recommandations, ce que l'Azza wa Jalla a interdit, c'est le droit chemin, il sera heureux comme ça durant toute sa vie et il connaîtra le bonheur de l'au-delà. Et Ibn Qayyim, il cite un petit peu que celui qui il dit: ولكن يغلط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة. Lorsqu'il cite le verset, qu'Allah Azza wa Jal, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. C'est un verset sur lequel il y avait déjà une conférence là-dessus par le frère Ismaïl. Il avait expliqué, il a bien expliqué là-dessus. Le verset dit à Allah, je ne pense pas, c'est pas le sens que j'ai. Il dit que celui, l'Azogé dit que celui qui fait la bonne action entre vous, Minzakarina ou Unsa, mâle ou femelle, et en étant croyant, Minamina Salihan, Minzakarina ou Unsa, ou Mu'min. Celui qui fait une bonne action, qu'il soit mâle, qu'il soit homme ou femme, Minzakarina ou Unsa, et en étant croyant. Celui-là connaîtra la bonne vie. فَلَنُحْيِنَّهُ حَيَةً طَيِّبًا. Et il sera rétribué par les meilleures des actions qu'il fait. وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et donc, dans ce verset-là, bien sûr, Allah Azza wa Jalla cite de faire les bonnes actions. Et il faut remarquer qu'il a cité فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى قَالَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Et là-dessus, on a les deux conditions par lesquelles Allah Azza wa Jalla accepte l'action. لأن أسباب اللي ربي عز وجل يقبل بها العمل وهي مذكورة في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن يوجد هنا شروط قبول العمل، لابد من الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل وإخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. العمل الصالح هو ما كان وفق السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'on devrait adorer Allah Azza wa Jal comme l'a fait le prophète. Ça paraît tout simple, la phrase que je suis en train de dire. Mais il y a beaucoup de musulmans qui adorent Allah Azza wa Jal comme ils le veulent eux. Quand tu lui dis pourquoi tu fais ça, il te dit j'aime le prophète, etc. Pourquoi tu fais telle ou telle chose. Il te dit j'aime le prophète. Ou tu aimes le prophète, tu suis ce qu'il a dit. Il faut pas aimer le prophète comme tu le veux toi. Il faut aimer le prophète comme le prophète l'a voulu. Et maintenant, الإمام الشافعي آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الإمام الشافعي لدي يعني آمنت بالله جكرا الله عز وجل كم ديو لو فو جكرا أو بروفيت كم لو بروفيت il le veut. Hein? Il y en a quand tu leur dis oui, pourquoi tu fais cette action dans la religion, hein? Pourquoi tu fêtes cet anniversaire ou pas, il te dit moi j'aime le prophète. Et si tu aimes le prophète, tu suis ce qu'il a dit. Tu ne l'aimes pas comme tu l'entends. On aime le prophète comme l'entend le prophète. Qui m'a dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi tu veux. Shaitan, quand il rentre chez beaucoup de musulmans, on leur dit oui, vous êtes. Vous avez une bonne intention, et ils essaient de, à travers cette bonne intention, de rentrer des actions qui ne sont pas conformes à l'héritage qu'on a de notre prophète. Et ça, Shaitan, il dit, l'insan mu'min, b'niyata wa tayyiba, il dit, t'aniyatik mniha, alors fais ce que tu veux comme action. Allez, tu aimes le prophète, donc aime le prophète comme tu l'entends. Non, ça c'est faux. C'est pour ça que l'Azza wa Jal, il l'a dit clairement, man amila salihan wa mu'min. Donc il y a les deux conditions. Il n'y a pas le fait que tu aies une bonne intention qui est liée à l'imam, hein, mais il y a aussi le fait que l'Azawajal a dit Amina Mada, Amina Salihan, qui fait une bonne action. Le sens du mot bon, il est lié à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui juge ce qui est bon, ce qui est mauvais? C'est le prophète. C'est Dinada, il est venu pour nous montrer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Être le bon, c'est pas à toi de le définir. C'est pas toi qui dis oui, c'est bien de faire ça. T'es qui pour dire c'est bien ou c'est pas bien? T'es qui, Fashara? C'est Allah Azza wa Jal qui nous définit ce qui est bien et ce qui est mauvais. Alors, tu lui dis oui, pourquoi tu fais cette action? Tu dis oui, mais j'ai une bonne intention. La bonne intention ne justifie pas, je vais dire, la bonne action. L'action n'est pas justifiable juste par la bonne intention. Si tu as une bonne intention, ça ne veut pas dire que l'Azza wa Jal l'accepte, puisque l'Azza wa Jal lui a donné les conditions pour qu'il accepte de nous les actions. Alf man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan salihan. Thumma qala wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. C'est une voix, tu dis, il y a comme une répétition. Non, il n'y a pas de répétition. L'amal salih fait partie de l'iman. Je dis oui, mais là, c'est comme s'il y a une répétition. Pourquoi Allah Azza wa Jalla dit, من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن. C'est fait l'amal salih, c'est qu'il est mu'min. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a montré ces deux conditions pour montrer que le fait qu'on ait une bonne intention ne suffit pas et n'est pas quelque chose qui justifie l'action qu'on fait dans l'adoration. Shahada, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ça montre, j'allais dire, les deux axes sur lesquels on devrait faire nos actions. Shahadat an la ilaha illallah wa al-ikhlas billah azza wa jal, sa caractéristique, le fait qu'on doit unifier Allah azza wa jal dans le cadre de l'adoration, notre cœur, il ne fait l'action que pour Allah azza wa jal, et anna Muhammadan Rasulullah, on doit suivre le chemin du prophète dans ce qui est des actions d'adoration. On doit, j'allais dire, توحيد المتابعة لرسول الله أنا توحيد العبادة لله عز وجل سي انتربا دي كور يا بير ترافاي دو لاكسيون كي اي دون فيت دو سويفر كو لو بروفيسور صلى الله عليه وسلم تي سي با الفلسفه تاعك ما با بيزوان تا فيلوزوفي ني تا كومبريونسيون في الدين اون بيزوان دو سويفر سكو دير البروفيسور صلى الله عليه وسلم الناس اللي دي بوركو تي في سيت اكسيون alors que ni le prophète ne l'a fait ni les générations qui sont venues après lui etc et tu dis il y a pas de mal dans cette action, c'est une bonne action. Qu'est-ce qui définit le bon et le mauvais si c'est pas Shara? Toi, t'es qui, j'allais dire, pour venir dire c'est bon ou c'est mauvais? T'as des problèmes dans ta vie, t'arrives pas à voir ce qui est bien, ce qui est mal dans ta vie. Pourquoi tu veux rentrer dans Shara pour définir ce qui est bon, ce qui est mauvais? Ce qui est bon, c'est ce qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aime le prophète comme le prophète il le veut. On fait pas comme on veut, Fadil. On fait comme on veut. Comme Allah Azza wa Jalla a voulu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu de nous. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, quand on fait son éloge, de dépasser les limites. Al wa la tutruni kama atrati nasara Isa ibn Maryam. N'exagérez pas dans mon éloge comme l'ont fait les chrétiens par rapport à Isa. Ils ont tellement fait son éloge qu'ils l'ont sorti du cadre humain au cadre divin. Et tellement ils ont fait l'éloge de Isa, c'est devenu un dieu. Et le père, le fils, tout ça c'est de la philosophie humaine, parce qu'elle a dérivé, elle est sortie du droit chemin. Et parmi les musulmans, j'allais dire certains, leur amour au prophète, il les pousse à Shaitan, il leur rentre, il dit vous aimez le prophète, il les pousse à l'exagération dans le fait de donner certains attributs au prophète. Alors, j'ai vu des gens, j'ai fait venir l'imam, il a fait la prière Tarawih toute la Ramadan, c'était bien, mashallah, maîtrise du Coran, etc. Un jour, je mangeais avec lui, il me dit voilà, le prophète, il connaît l'avenir. Comment ça, il connaît l'avenir? Tu lis le Coran complètement? Oui, oui. Il y a les versets. Là, il y a le monde rébellé. Comment ça? Oui, mais j'ai entendu tel. Subhanallah, al-Adim. Si tu prends le Coran, tu l'as appris par cœur, et tu donnes un attribut qui ne peut être valable que pour Allah Azza wa Jal. Là, il y a le monde rébellé. C'est clair. Non, il te dit, moi, j'aime le prophète. Et si tu aimes le prophète, tu n'as pas à lui donner des attributs de Dieu. Le prophète, il a des attributs qui sont dignes de lui. Allah Azza wa Jalla, il a des attributs qui sont dignes de lui. Allah Azza wa Jalla, où c'est fait, la télé qu'au bil makhlouqin. Le shaitan, il rentre dans ce domaine-là, il te dit, oui, il faut aimer le prophète, c'est le meilleur des hommes, etc. Et il pousse certains, j'allais dire, à aller dans l'exagération que le prophète nous a interdit. Et quand tu lui dis ça, le shaitan, il lui dit, non, ne le suis pas, celui-là. Il n'aime pas le prophète. Toi, tu aimes le prophète. Hein? Tu vois, s'il dit ça, c'est qu'il ne l'aime pas, il a un problème. Et ça, c'est faux. Shaitan, il te rompt par les choubouettes et tout. Et ça, c'est une choubouette qui est forte. J'ai dit beaucoup de musulmans, regarde, ici, après, ils ramènent des versets, ils se ressemblent, ils font soi-disant une fête, ils ramènent dans cette fête, certaines poésies, dans ces poésies, tu trouves des exagérations. Hein? Il n'a dit que dunya wa daratwa. Wa min ulumika ilmu luhi wa al-qalami. Subhanallah al-adim. C'est-à-dire, certains, quand ils se rencontrent pour fêter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ramènent cette poésie, ils disent cher, cher, fait le shirk, billah azawajal, fait le kufr, billah azawajal. Comment tu dis au prophète, et parmi tes sciences, pas justement, parmi tes sciences, il me l'ouhi au khalam, ce que l'Allah azawajal a ordonné au khalam d'écrire, c'est tout ce que l'Allah azawajal il a fait dans la création. Et ça, il lui dit, c'est juste une partie de ta science. Subhanallah al-Adim. C'est. Wa min ulumika ilmu luhi wa al-qalam. Et on le conseille, mais d'akhlin alayhi ajbatum avec le rythme. Et c'est tout. Ils avancent dans ça. Et quand il leur dit, ce que vous êtes en train de faire, c'est au contraire des recommandations du prophète. On devrait aimer Allah Azza wa Jal comme Allah Azza wa Jal nous l'a dit. On devrait aimer le prophète comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Notre religion, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas, comme disaient les chrétiens, amour et tout, tu veux t'accroire en Dieu comme tu veux. Non, tu crois en Dieu. Dieu, Allah Azza wa Jal, il t'a montré un chemin, tu le suis. Allah Azza wa Jal, il dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ. Si vous m'aimez réellement, il faut suivre mon chemin. C'est le chemin du prophète. Et ça, c'est le signe de l'amour. Comment tu dis que tu aimes le prophète, après tu contredis ce qu'il te dit de faire. Qu'est-ce que c'est que cet amour du prophète? Alors que tu es khalif. Alors que lorsqu'on dit qala rasulullah, tu dis oui, mais ce hadith, je ne suis pas tellement convaincu. Comment ça tu es pas convaincu? Qala rasulullah. C'est le prophète qui a dit. Toi, tu dis, mais tu aimes le prophète. Tu suis le prophète. Lakin. On a que ahwa fi nufus, et à l'intérieur des nufus, tu as un dhaf, wa hawa, et tabi'u l'insan. Rabbi ihfadna wa iyyakum. Yaqul walakin yaghlitu al-jufatu al-ajlaf fi musamma al-hayat, haythu yadhunnuna tana'um fi anwa'i al-ma'akil wa masharib wal malabis wal manakih, aw ladath ar-riyasati wal mali wa qahri al-a'da wa at-tafannun bi anwa'i ash-shahawat, wa la riba anna hadhihi ladatun mushtarakatun bayna al-baha'im, bal qad yakunu hadhu katir min al-baha'im minha akthar min hadhi al-insan, faman lam takun 'indahu illa al-ladhatu allati tusharikuhu fiha as-sib'u wad-dawab wal-an'am, fadhalika mimman yunada 'alayhi من مكان بعيد. ولكن أين هذه اللذة؟ من اللذة بأمر إذا خارط بشاشته القلوب سلى عن الأبناء والنساء والأوطان والأموال والإخوان والمساكن ورضي بتركها كلها والخروج منها رأسا، وعرض نفسه لأنواع المكاره والمشاق وهو متحل بهذا منشرح الصدر منشرح الصدر به. Donc Ibn Qayyim il dit, il se trompe ceux qui ont les cœurs durs dans le sens de l'hayat, hein, dans ce verset, la nuhina wa hayatun tayyiba. Est-ce que Allah Azzawajal a dit celui qui fait des bonnes actions et qui est sincère, qui est croyant, on le fera vivre une bonne vie. Il dit, il y a certains, ils se trompent sur le sens de cette bonne vie. Parce qu'ils croient que cette bonne vie, c'est le fait de tana'am, de courir derrière les plaisirs. Du manger, du fait de boire, le fait de bien s'habiller, le fait de s'accoupler, et aussi les plaisirs liés au pouvoir, d'être chercher la présidence, l'argent, et le fait de vaincre les autres. Et j'allais dire tout ce qui est lié à ça, dans sa diversité. Il dit, et le fait de définir ainsi la vie, et définir ainsi le bonheur, c'est le définir dans une définition qui est commune entre l'homme et l'animal. Parce que l'animal, il trouve son plaisir dans ces choses-là, en fait, de manger, de boire et de s'accoubler. Et là-dessus, il dit, celui-là, il est en train de courir derrière le bonheur de l'animal. Hein? Et quel qu'il soit cherche, il y a même des animaux qui sont plus heureux, si c'est ça sa définition, que lui dans ça. Hein? Le lion, il est tranquille. C'est le roi, il y a les femelles qui travaillent pour lui, il a toute la puissance, dès qu'il régit tous les animaux, ils ont peur. Et donc lui, cet animal, il est mieux que l'homme si tu définis ainsi la vie. Il s'impose, il connaît tous ses aspects. Ce que mon pays me dit, il a l'adalati tushariku fi al-siba wa al-dawab wal-an'am. Et même cet animal, il dit, il connaît de ça mieux que l'homme. Et ça ne marche pas avec là. La définition de la mission que Allah Azzawajal lui a donnée à cet homme. Il lui a donné un bonheur qui est au-dessus du bonheur des animaux. Il lui a donné un hayat ad-dunya et qui ne peut pas être la même. Allah Azzawajal lui a donné un bonheur qui est lié à un équilibre entre son âme et son nefs, etc. Et le fait qu'il a envoyé cette révélation, c'est pour permettre à cet homme de rester sur un chemin qui le rapproche d'Allah Azzawajal, qui soit toujours en adoration d'Allah Azzawajal, et c'est cette adoration qui fait que l'insan il est heureux dans sa vie. Et cela a fait qu'il dit لا تأخذوا في ذلك لومة لائم حتى إن أحدهم لا يتلقى الرمح بصدره ويقول فزت ورب الكعبة ورب الكعبة. Donc il dit que les compagnons du prophète, lorsqu'il était avec lui, ils étaient en plein jihad, etc. Il y avait des compagnons qui recevaient, j'allais dire, une lance qui allait le tuer. Et il disait, j'ai gagné. Par Allah Azza wa Jal, j'ai gagné. Alors qu'il allait mourir. Mais il était tellement dans l'adoration, dans le fait qu'il faisait cette action pour Allah Azza wa Jal, qu'il reçoit lorsqu'il recevait ça, il recevait une lance qui allait le tuer, et il disait Fousto à Rabbi Kaaba. Alors, si tu as devant toi des gens qui sont comme ça, c'est normal qu'ils font peur à leurs ennemis. Parce que Daniel est sorti de leur cœur. Et t'imagines, t'as un ennemi, tu le tues, il dit j'ai gagné. Je lui dis, il y a un problème. Hans, Hansen, il a peur, j'allais dire, instinctivement de la mort. Et c'était la première génération, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faudrait se rendre compte un peu de l'effort qu'ils ont fait, surtout dans la guerre, quand ils étaient contre les Romains et les Perses. Et les Romains, ils avaient des armées qui étaient... c'était des armées, c'était des gens qui vivaient pour la guerre. C'était des écoles, des stratégies, etc. Et en face d'eux, il y avait les Arabes qui, eux, avant le prophète, ils faisaient que le karw al-far, c'est-à-dire que eux, quand ils se lançaient dans le harb, ils vont direct, ils couraient, il n'y avait pas de stratégie, ni l'avant, ni l'arrière, ils fonçaient dedans, et celui qui le trouve, il le tue, etc. Il n'y avait ni stratégie, ni rien du tout. Hein, chez les Arabes. Et eux, ils allaient défier les Romains qui faisaient leur bien armé, qui avaient des trucs qui étaient bien faits, qui avaient des gens qui s'entraînaient du matin au soir, ça, qui avaient des généraux qui étudiaient les stratégies, etc. C'était quelque chose de fort. Et malgré ça, les Romains se sont retirés de Mu'ta, de la guerre de Ma'arakat Mu'ta, alors que les musulmans, ils étaient 3000 et que les Romains, ils étaient plus de 100 000. c'était Rasoul Salam, il avait envoyé trois compagnons. Il disait, celui-ci, il y a quelqu'un qui meurt. En premier lieu, Abdullah ibn Rawaha, Ja'far ibn Abi Talib. Et Zayd ibn Haritha, il avait mis Zayd ibn Haritha sur la tête. Il est mort au début du combat. Ja'far ibn Abi Talib, il avait pris Rayat al-Muslimin. Il a eu ses deux mains coupées. Il tenait avec ses bras qui étaient coupés. Il tenait le flambeau le drapeau de al-Muslimin, après Hussein. Et il est mort. Après, c'était Abdullah ibn Rawaha. Et il est mort. Et les Romains, ils n'ont pas compris comment se fait-il que cette petite armée qui était composée de 3000 guerriers leur tenait tête alors qu'ils étaient plus de 100 000. Et après, les musulmans, ils ont pris Yanni pour chef Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Et lui, Yanni, au courant de la nuit, il y avait la nuit qui était salée, ils ont tenu toute une journée. C'était quelque chose qui dépassait l'Azraji leur a dit, Yanni, bon, le musulman, il va battre 10. Là, on est dans un repère dans une différence de 30. J'allais dire, malgré ça, les musulmans, ils ont tenu tête, Yanni, aux Romains, en premier lieu, et la nuit, j'allais dire, Khalid ibn al-Walid, il a pris le flambeau, il a pris le drapeau des musulmans, il a décidé de changer le devant de l'armée, il a changé le. Il a mis ceux qui étaient devant, il les a mis derrière. Ceux qui étaient à droite, il les a mis à gauche. Ceux qui étaient à gauche, il les a mis à droite. Et il a dit à certains, il les a envoyés, il a dit, bon, dès que l'aube, il se lève, dès que le jour, il se lève, allez au loin et faites le maximum de poussière. Et les Romains qui ont vu, j'allais dire, qui ont passé une mauvaise journée, mais les musulmans en parenthèse, ils se réveillent le matin et devant eux, ils voyaient des gens qu'ils ne voyaient pas hier. Et de loin, ils ont vu la poussière, ils ont dit, oh, ils reçoivent des renforts. Aussi, hier, on n'a pas pu les battre avec les... Là, ils ont déjà reçu des renforts et il y en a qui arrivent. Donc, les deux armées étaient en train de se regarder, sont restées en position de... ni les Romains ne voulaient avancer, et les musulmans, ils étaient en attente et ils se sont retirés, j'allais dire, sans continuer la bataille. Et lorsqu'ils sont revenus à Médine, et le Nassib leur disait, oui, vous êtes les perdants, comment ça vous vous êtes retirés de cette bataille? Et Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit, c'est eux les gagnants. Donc c'est pour montrer que c'est une génération qui faisait face. C'était des compagnons, s'ils ont battu le Romain et les Perses, c'était pas quelque chose de facile, les années de leur temps. Il y a des dinadas, lorsqu'ils rentrent dans le Qouloub, lorsque ces gens-là, ils ont compris, Dunyadi est sorti de leur cœur, et ils ont fait ces efforts pour Allah Azzawajal, ils ont donné leur vie pour Allah Azzawajal, ils ont inversé le sens de, j'allais dire, le sens de l'histoire. Le fait de parler des Arabes, c'est les derniers des dénis. Tu dis aux Romains, les gens, le Munafiqin, ils disaient, Firazot al-Khunduq, l'an 5 de l'Hijra, ils disaient, le musulmin, comment vous allez vaincre tous les Romains et les Perses alors que vous êtes là à Médine, les Arabes, ils ont Quraysh et tout, ils ont rassemblé une armée de plus de 10 000 guerriers, et là, vous vous dites que vous allez gagner les Romains, vous allez battre les Romains et les Perses, ils essayaient de toucher à leur certitude. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nassara hadha ad-din. Allah Azza wa Jal nassara hadha ad-din. Et c'est lui qui a détruit l'Empire Perse à tout jamais. L'Empire Perse a été détruit par les musulmans et le reste de certains groupes qui ont dévié du droit chemin, c'est l'héritage qu'il y a eu du fait que l'Empire Perse il a été détruit. Al-Fors, j'ai l'islam, il a détruit Hadar al-Farisi. Et les Perses d'avant, ils ont laissé dans cette religion, ils ont essayé de changer à l'intérieur. Et la secte Shia Kullaha, elle est venue du fait que, de la réaction, du fait que l'islam, il a écrasé l'Empire Perse, et qu'il y a eu cette résistance, cet essai de changement dans la religion, de l'intérieur de la religion, parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à l'islam d'une façon apparente. C'est une, j'allais dire, des raisons, j'allais dire, de la naissance de certains sectes, c'est le fait que l'islam, il était fort, j'allais dire, point de vue armé, point de vue matériel, et que ses ennemis ont essayé de le changer de l'intérieur. L'islam, hawlu yghayru hadha ad-din, il y a eu une bataille qui était clair, c'est des armées contre des armées, et il y a eu une bataille qui était une bataille intérieure. Mais la bataille intérieure, elle a plus d'importance que la bataille qui était extérieure. Les ulama, les imams qui se sont, j'allais dire, consacrés leur vie pour défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour montrer ça à Daif, ils ont fait un effort bien plus important que ceux qui ont ouvert et qui ont conduit cette religion par l'épée et par la force des armes. Parce que le fait de changer, de laisser l'intérieur, c'est-à-dire cette sunna à découvert, c'est le fait que cette religion soit détruite. C'est un sexe, j'allais dire, ils détruisent le rôle des compagnons. Ils disent, voilà, l'ensemble des compagnons du prophète sont des koufars. Pourquoi? Parce que si tu coupes ce relais, c'est bon, tu peux interpréter la religion comme tu veux. Il n'y a plus de religion. C'est eux qui ont porté. Min janad l'islam. D'où nous vient cette religion? La révélation, elle est venue au prophète. Elle a été transmise aux compagnons. Si jamais tu coupes cette chaîne, halas. T'as coupé la transmission. Chaque fois que tu dis qu'Allah, Sahib Flani, les hadiths sont déjà, les hadiths sont passés par les compagnons. Si tu coupes ça, si tu dis qu'ils sont des koufars, ça a détruit toute la religion. Et après, ils te disent que le prophète n'a réussi qu'à éduquer, j'allais dire, une minorité des compagnons. D'accord. Si le prophète n'a réussi à avoir sur le droit chemin que peu de compagnons, vous allez réussir dans quoi? Si le prophète qui est soutenu par l'Ouahi, par Allah Azzawajal, par ces gens, etc., il n'a réussi qu'à, il te dit, voilà, il a réussi dans toutes 23 ans de da'wah, il a réussi, j'allais dire, à guider une dizaine, j'allais dire, des compagnons. Vous allez faire quoi? Vous, aujourd'hui, vous allez faire quoi? Ça y est, vous avez tout détruit. Et j'en ai dit beaucoup de musulmans quand tu leur parles de ça, quand tu leur dis, faites attention, tout ce qui se vous dit, yani, tout ce qui est dit, là-dessus, dinada, il est mustadaf, cette religion, elle est visée. Le shaitan, il a fait plein d'efforts pour essayer de la détruire, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Pourquoi tu te poses des questions? Certains disent, oui, pour les musulmans, inshallah, on voit tout en rose, etc. Ou le shaitan, il fait quoi alors? Il est en train de dormir, tu penses? Durant 14 siècles, il a fait, non. Durant 14 siècles, il a fait des efforts, il a dévié beaucoup de nos ancêtres du droit chemin. Et c'est pas possible qu'il adore. Tu viens aujourd'hui, tu dis, maintenant, tu dis, oui, mais pourquoi tu critiques tel parti, pourquoi tu critiques ça? Mais tu ne fais pas critiquer. Tu es en train de dire que la sunna du prophète, le droit chemin, il est là pour réveiller l'ensemble des musulmans, pour leur dire où c'est le danger. Si tu ne connais pas toi le danger, comment tu peux l'éviter? Si tu ne connais pas ton ennemi, comment tu peux le battre? Si tu n'as pas assez de science, on te peut faire avaler n'importe quoi. C'est que tu le dis ça, et tu dis, oui, mais comment se fait-il qu'il y ait eu autant de divergences? Mais c'est normal, c'est la nature même de cette religion, c'est la nature même de notre vie, qui est que Shaitan ait fait autant d'efforts, s'il a dévié, j'allais dire, les juifs et les chrétiens totalement de leur livre, hein, tellement qu'aujourd'hui, les textes qu'ils ont, les textes sacrés qu'ils ont, qui est la Torah, l'Injil, etc., les textes israéliens ont été changés. Comment voulez-vous que dans l'islam, il ne va pas dévier certains groupes de musulmans sur des chemins qui sont en dehors du chemin sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sallallahu alayhi wa sallam, il a bien précisé que cette nation, il y aura des divergences dans cette nation. Il a bien dit qu'il y a une divergence. Ah, et lorsqu'on les compagnons ils lui ont dit c'est quoi la caractéristique du chemin qu'on a à suivre, du droit chemin, dans une riwaya. Ah, il a dit c'est le chemin sur lequel je suis et mes compagnons. Donc tous les chemins qui dénigrent les compagnons, on les met de côté. On sait que c'est pas le droit chemin. Parce qu'il dénigre les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les compagnons. Tous les chemins qui disent, voilà, madrasatu salafi, aslam, wa madrasatu khalafi, a'lam wa ahkam, on laisse de côté. Ça, le prophète ne l'a pas dit. Hein? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, ma'ana alayhi wa ashabi. Donc, l'école, ta salafuna salih, nos pieux prédécesseurs. C'est cette école qui est dans la compréhension, sur le droit chemin. C'est assez, j'allais dire, il faut qu'il fasse attention à ces règles-là. Et يقول ويقول الآخر مع فقره. Il dit, tu entends quelqu'un d'autre qui dit, alors qu'il est pauvre, il y a des biens de cette dunya, il dit, لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجاردون عليه بالسيوف. C'est-à-dire, un de ceux qui étaient sur le droit chemin, qui était en train de ressentir cette jouissance de la foi dans son cœur, il dit, si les rois et les fils de rois savent le bonheur dans lequel on est, et on se serait disputé pour l'avoir, et on est à coup d'épée. Ils viennent essayer de nous le prendre par la force des épées. Ils ne savent pas le bonheur qu'on a dans le chemin de l'adoration. C'est des gens qui vivaient avec cette religion et qui sentaient le bonheur dans leur pratique. « Nihassoub sa'ada fi ibadatim illa azza wa jal »« As'alallahu alayhi wa jalan » ceux qui connaissent la jouissance sur l'état de la foi. Et quand il disait aussi, certains disaient, إِنَّهُ لَتَمَرُّ بِي أَوْقَاتْ أَقُولُ فِيهَا إِنْ كَانَ أَهْلُ جَنَّةِ فِي مِتْلِ هَدَا إِنَّهُمْ لَفِي نَعِيمٍ. C'est-à-dire, il y en a ceux qui ont réussi, c'est-à-dire le fait qu'ils ont marché sur ce droit chemin, ils disaient, il y a certains instants où je sens un tel bonheur dans mon cœur, que je me dis que si ceux qui sont au paradis, ils ne connaissent que ça, ils sont dans un grand paradis. Hein, c'est pour ça que Cheikh Ibn Taymiyyah, il a dit, il y a un paradis sur terre, celui qui ne le connaît pas, ne connaîtra pas le paradis de l'au-delà. Ceux qui ont vécu, qui ont connu ce bonheur dans leur cœur, en fait de suivre le droit chemin. Après, Ibn Qayyim cite le hadith où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait, et les compagnons lui disent, toi tu es en train de jeûner 3 ou 4 jours de suite ou plus, lui sale, ah, il leur disait, ne faites pas comme moi, moi je, ana habitu, yut'imuni, adallu inda rabbi, yut'imuni, ou yasqini, azza wa jal, il me fait manger et il me donne à boire. Et là, Ibn Qayyim, il priorise le fait que le manger, le boisson que le Rasoul a cité dans ce hadith, c'est quelque chose qui est lié à l'âme. Ce n'est pas l'it'am matériel, ce n'est pas le fait qu'il buvait l'eau, j'allais dire, qu'on connaît ce terme, mais c'est la force de la foi dans laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est un état d'âme. Et j'allais dire ça, il le connaît celui qui est dans un amour fou, j'allais dire, des fois les saints, tellement il aime quelque chose, j'allais dire qu'il se prive de manger. Ou tellement il a peur d'une chose qu'il n'a plus envie de manger pendant des jours. Il a dit, c'est de la force qu'il y a dans le cœur. Hein, des fois, elle arrive dans l'adoration. Parce que l'insan, il connaît hein, ce bonheur que l'Azawajal lui donne. Par le fait qu'il est sur le droit chemin, qu'il suit le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il arrive à négliger les désirs de ce bas monde. Donc, on a dit, Ibn Qayyim, il a bien commencé à citer le verset, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Nous, on cherche cette حياة الطيبة. Notre but, c'est d'essayer de bien vivre, la bonne vie. Et cette bonne vie, l'Azza wa Jal, il a donné ses axes. L'axe principal, c'est de faire l'amal salih et le fait d'être sincère dans notre action. Hein? Sincère envers Allah Azza wa Jal. Et on a bien dit que le chemin, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, c'est pas une porte qui est ouverte à tous ceux qui veulent y rentrer comme ils le veulent et comme ils l'entendent. On ne devrait adorer Allah Azza wa Jal que comme Allah Azza wa Jal il veut. N'abdu Rabbi kimi hab Rabbi. Comme a dit l'imam Shafi'i, j'ai cru en Allah Azza wa Jal et tout ce qui vient dans Allah Azza wa Jal comme Allah Azza wa Jal il le veut et j'ai cru au prophète et ce qui m'est venu du prophète comme le prophète il le veut. Il y a un abdu rabbi qui m'a hab rabbi et il y a un abdu rasul sallallahu alayhi wa sallam qui m'a hab rasul sallallahu alayhi wa sallam et un abdu rabbi azza wa Jal qui m'a hab ou ma tibouche le rasul sallallahu alayhi wa sallam qui m'a tahouana. Non, نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كما حب الرسول صلى الله عليه وسلم. Et là, on assiste sur cette question sur laquelle, يعني, أكدوا على هذه النقطة, أين نجد يعني كثير من المسلمين يعني يبتعدون عن 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 الطريق المستقيم فيها. Beaucoup de musulmans dévient à partir de cette question. Je shaitan, il lui dit, oui, toi tu as une bonne intention, tu fais beaucoup de prières, tu fais beaucoup de jeûnes, tu étais un bon adorateur, et donc c'est bon, tu peux faire l'action que tu veux. Après tout, il n'y a pas de mal à faire ça ou ça. Alors que ce qu'il est en train de faire, il n'est pas justifié du point de vue de la sunna. Tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait comme ça l'adoration. Il te dit, la foi c'est dans le cœur. L'iman fil qalb. Pourquoi vous nous cassez la tête avec votre sunna? C'est bon, l'iman fil qalb, ça suffit. Dire, c'est lui qui m'a t'hub. Som qui m'a t'hub. Hajj qui m'a t'hub. خلاص ما بقاش الدين ما دام الايمان في القلب فقط. ما علاش نصليو وعلاش نصومو وعلاش نتبعو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الانسان تقول له قال رسول الله, يقول لك لا عاش بوكو تي مكاس لا تيت. السنه هذه هي فيها النجاه تاعنا, كما قال الامام مالك, السنه سفينه نوح. السفينه هذيك السنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم هي اللي تنجي الناس, نجينا يوم القيامة. احنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم, لازم نكون صادقين في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم نتبع الطريق. ربي عز وجل il a fait que حلنا هذا الطريق اللي نعيشوه, le droit chemin qu'on a à suivre, c'est d'avoir l'intention sincère لله عز وجل, الإخلاص لله عز وجل, وإخلاص الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة, صلوا كما رأيتموني وصلي. ما قالهم صلوا كما جت. مهم القلب, تحب تصلي هكذا صلي هكذا, تحب تصلي هكذا صلي هكذا, تحب تصلي هكذا. لا, هذا ماشي من الدين. ولكن نصلي, سمحوا لي يعني في هذا سيت دي فوا دوني دي زيكزامبل زيكزاجير, مي سي بور يعني مونطري باش ننبه خاوتي, باسكو يعني خاوتي كثير يعني عندهم نظرة سيئة للسنة. ممكن شي واحد يتكلم مع السنه ما عارف يتكلم لهم, خلاص الشيطان يجي يقول له هادو تاع السنه هادو طونسيون فيرم لا بورت. يقول له جعل قلبك مفتوح, اسمع الى الحق, فو سي دو سوبر لا فيريتي ميم سي لي دور بالنسبه للنفس تاعك, باسكو سير هادو فيها هادشي النجاة تاعك. فالانسان اذا صلى يصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. بل كثير مسلمين ما تقولوا علاش دير في هذا الاحتفال, يقول لك نحب الرسول. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك, قال لك ما ديرش هذا الشيء. كيف تدير عشاء يعني تقول لي نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تخالفه في مجيء خلف؟ عجيب الامر هذا. ربي عز وجل يقول, قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انت تحب الرسول صلى الله عليه وسلم, اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال لك. علاش تاتي باشياء ونقول لك تقول لي هذه صح ما كانش, ما دارهاش الرسول وما دارهاش الصحابه, ما دارهاش الرسول صلى الله عليه وسلم وما داروهاش الصحابه وما داروهاش المسلمين مده قرون, بصح اليوم نشوفوا بلي نديروها. كيف هذا؟ مين جاك هذا الدين هذا؟ حاجه مليحه فات على الرسول صلى الله عليه وسلم وما داروهاش الصحابه, وانت ما شاء الله اليوم راك قافز راك فقت لها انت. هاك كلك شوز دو بيان كو البروفيت نا با فيو كو لي كومبانيون نون با فيو. سي بور سا اليوم راني في رانا في الحاله تاعنا. سبسا اليوم رانا الاخرين. احنا اليوم اسكوني فور اليوم ضعف, والضعف وين راجع؟ راجع لبعدنا عن كتاب الله وسنة الله سلم. ربي عز وجل يقول ان تنصروا الله ينصركم. لو كان تنصروا بي كنت تبع الطريق المستقيم وكان جينا احنا المسلمين وفق كتاب الله وسنة الله سلم, ربي يعزنا ويخلينا احنا الاولين. ولكن لما بعدنا وتأثرنا بالغرب وتأثرنا بالاستعمار ودخلنا مفاهيم غير المفاهيم التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم, ربي بعدنا عن الطريق. ربي يوفقنا وإياكم الخير. نظن كثير يعني ظني بكثير من إخواتي يعني محسن نظن بهم, ولكن شبهات الشيطان, الشيطان يبيان بك دي فوز أرغمون, يزين لك وزين لهم الشيطان وعملهم كما نقولوا يغير لك صورة الحق إلى الباطل. الشيطان يبيان يكمبيلي المال دون سنس وتو لو كومبيان إلى الانفيرس. إذنك شاهد الكرويون, الإنسان لما يرى الحق يحاول كيفاش يتبع الحق. هذا هو صفة المسلم, أن يسلم وجهه لله عز وجل. المسلمون كنت يبغى la vérité يلس tomber les habitudes et traditions. هتقول له قال رسول الله, يقول لك جدي وبابا وما داش هادشي. رسول دارو الرسول صلى الله عليه وسلم دار هادشي والصحابة بعدهم داروا هادشي. يقول لك لا كيفاش بابا ما داروش؟ الاب تاعك كان ربي يرحمنا وإياه كان على خطأ يعني كان أنا شهد أمر هذا يعني استغرب. هذا الحديث عندك النص يقول لك قال رسول الله تقول له كيفاش بابا وجدي ما دارش هادشي؟ أنت الضعف اللي رانا فيه المسلمين هذا يشرح هذا الشيء. فالإنسان عليه باتباعي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وربي يرزقنا وإياكم ذلك ويجعلنا يجعلنا إن شاء الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه كالله عز وجل فصل qu'on soit parmi les gens du paradis. ربي وفقنا وإياكم الخير وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.